suis très heureux d'être là ce matin et j'ai à cœur de vous partager quelque chose qu'on a reçu à l'étude biblique ensemble ce mardi, un texte. Et donc je vous embarque avec moi dans la lecture d'un passage connu et important du livre de l'Exode. Donc ceux qui ont des Bibles, ceux qui ont des smartphones, ouvrez-les au livre de l'Exode au chapitre 33. Exode 33, c'est juste après Exode 32. Exode 32, c'est le veau d'or. Moïse est monté en haut du mont Sinaï dans la présence ardente, j'ai envie de dire, de Dieu. La montagne fume, il y a des éclairs, des tremblements de terre, du tonnerre. Dieu déploie le son et lumière, il est là. Et Moïse monte au cœur de cette présence divine. Et il passe 40 jours et 40 nuits dans cette présence, à tel point que le peuple perd espoir de le revoir un jour. Ce Moïse qui nous a conduits hors d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Il se tourne vers Aaron et dit « Bon, maintenant, tu nous fais un Dieu qui reste vraiment avec nous et dont on peut s'approcher. » Il fabrique le veau d'or et lui rend un culte et festoie. Et Dieu, qui est avec Moïse en haut de la montagne, ordonne à Moïse de redescendre. Bon, je vais lire un petit peu dans le 32 quand même. Partie du verset 7. « Alors le Seigneur dit à Moïse, redescends tout de suite, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, a commis un grave péché. » Et ils se sont bien vite détournés du chemin que je leur avais indiqué. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont inclinés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Ils ont même déclaré, « Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. » Eh bien, j'ai vu ce que vaut ce peuple. Ce sont tous des rebelles. Alors, laisse-moi intervenir dans ma colère. Je vais les exterminer, puis je ferai naître de toi une grande nation. » Ça se passe mal. S'il y a bien une revendication que l'Éternel a toujours gardée envers Israël, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et là, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? « C'est ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Je suis sûr qu'il y a des parents dans cette salle qui comprennent un peu le sous-entendu implicite. Hein. « Ah oui, c'est bien ton fils, c'est bien ta fille ça. Hein. » Comme si Dieu ne voulait plus de ce peuple. Non, c'est ton peuple, Moïse. C'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte. Et maintenant, laisse-moi, qui dit, et laisse-moi, je vais les punir, je vais tous les tuer. Et toi, je te garde et on recommence tout avec toi. Moïse, nouvel Abraham. On redémarre tout un peuple avec lui, nouvelle promesse, de la promotion. Mais Moïse intercédera. Seigneur, souviens-toi d'Abraham, Isaac, Jacob, la promesse que tu as faite. Seigneur, faut-il que les Égyptiens disent que tu n'avais pas la puissance de les sauver ? Que du coup, de colère, tu les as fait mourir dans le désert au lieu de les amener dans le pays promis ? Il négocie. Ok. Il y a un sursis, un temps de négociation qui s'ouvre. Moïse redescend, il punit le peuple. Il remonte en disant « Tenez-vous à carreau, je vais essayer de récupérer le truc. » Qui sait si Dieu ne changera pas d'avis ? Qui sait si Dieu ne changera pas d'avis ? Il n'est pas sûr. Il remonte. Et là, on en arrive justement à ce passage qu'on va lire dans Exode 33. Moïse doit sortir la tente de la rencontre du milieu du peuple parce que Dieu ne veut plus habiter au milieu de ce peuple. Israël et Dieu font chambre à part. Et je lis au verset 12. Moïse parle à Dieu. Écoute, Seigneur, tu m'as ordonné de conduire ce peuple, mais tu ne m'as pas indiqué Qui tu vas envoyer pour m'aider? Pourtant, tu m'as choisi spécialement. C'est toi qui l'as affirmé. Tu m'as accordé ta faveur. Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je connaîtrai vraiment que je bénéficie pleinement de ta faveur. Et n'oublie pas ce peuple qui est le tien. Le Seigneur lui répondit, « Je serai avec toi. Tu n'auras pas à t'inquiéter. » Petite pause. Donc Moïse essaie de ramener le peuple, hein, et Dieu répond, « Je serai avec toi. » Toi seul. Hein? Mais Moïse n'a pas fini. Alors il reprend. Si tu renonçais à venir en personne avec nous, ne nous ordonne pas de partir d'ici. En effet, si tu ne nous accompagnes pas, comment pourrait-on savoir que tu nous accordes ta faveur, ton peuple et moi? Seule ta présence peut nous distinguer des autres peuples de la terre. Le Seigneur répondit à Moïse, « D'accord, je réaliserai ce que tu viens de me dire. Je t'accorde ma faveur, car c'est bien toi que j'ai choisi. » Moïse a la tâche impossible, impossible de négocier que Dieu reste fidèle à son peuple, alors que son peuple vient de commettre un péché immense. Alors, qu'est-ce que Moïse peut bien dire en faveur du peuple? Depuis la sortie d'Égypte, ils font que râler. Que dire, « Ah, oh, mais en Égypte, on avait des melons, oh, on avait la marmite, on manquait de... Ah oui, c'est vrai, on était esclaves, mais quand même, c'était bien l'Égypte. » Et Dieu doit sans cesse les ramener, et Moïse doit supporter leur accusation, leur rouspétage, etc. Donc, qu'est-ce que Moïse peut mettre en faveur du peuple pour plaider sa cause devant Dieu? Rien. Il aurait pu aussi utiliser ses bons états de service. « Seigneur, voilà, je suis allé devant Pharaon à chaque fois que tu me l'as demandé. Voilà, on a fait les 10 plaies d'Égypte ensemble, la traversée de la mer Rouge, tout ça, j'ai... Bon, on a quelques résultats, quelques achievements quand même à notre actif. On ne s'arrête pas là, quoi. » Mais ce n'est pas ça qui met dans la balance non plus. Qu'est-ce qu'il va mettre dans la balance? Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que j'avais ta faveur. Tu as dit que j'étais important à tes yeux. Alors, s'il te plaît. Et vous voyez, il ose se dire, « Ok, Seigneur, tu as dit que tu m'aimais, tu as dit que tu étais important à mes yeux. » Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire rentrer dans cet amour-là, derrière lui, là, de planquer un peu dans son dos? Tout son peuple. Hein, tu as dit que tu m'avais ma faveur, alors est-ce que tu vas venir avec moi et ton peuple? Et Dieu n'est pas dupe. Je vais venir avec toi. Oui, mais tu comprends, moi et ton peuple, comment est-ce qu'on va être distingués des autres? Comment est-ce nous serons une nation différente si tu n'habites pas au milieu de nous? Et Dieu répond, à cause de toi, à cause de ce que tu as ma faveur, je vais faire ce que tu me demandes. Mais à aucun moment, Dieu dit, non, c'est vrai, ils sont cool. Non, c'est vrai, ok, je l'ai... C'est vraiment à cause de Moïse que Dieu garde le peuple et l'emmènera jusqu'à la terre promise. Le peuple n'a rien à mettre dans la balance. Rien. Rien du tout. Il y a un autre texte que je voudrais lire avec vous. Dans le livre de Josué. Alors, s'il y a un épisode marquant dans l'histoire de Josué, c'est la prise de la ville de Jéricho. Et donc, au tout début du livre, au chapitre 2, alors que Josué, un bon stratège, prépare la conquête du pays de Canaan, il envoie deux espions dans la ville. Donc, je lis au chapitre 2. Du camp de Shittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement deux hommes avec l'ordre d'explorer le pays et la ville de Jéricho. Arrivés à Jéricho, les deux espions allèrent passer la nuit dans la maison de la prostituée nommée Rahab. Le roi de Jéricho apprit alors qu'il y avait deux hommes qui étaient venus explorer le pays. Il fit dire à Rahab : Les hommes qui sont venus chez toi ont pour mission d'examiner à fond le pays. Livre-les-nous. Rahab emmena les deux hommes et les cacha. Et puis elle répondit : Ces hommes sont effectivement venus chez moi, mais je ne sais pas d'où ils venaient. Et puis ils sont repartis à la tombée de la nuit, au moment où on allait fermer les portes de la ville. J'ignore où ils sont allés, mais si vous vous dépêchez, vous allez les rattraper. En réalité, elle les avait fait monter sur le toit de sa terrasse et les avait cachés au milieu des tiges de lin. Les envoyés du roi partirent à leur poursuite et dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma les portes. Ils les cherchèrent les espions en suivant la route qui mène au gué du Jourdain. De son côté, Rahab monta sur le toit de sa maison avant que les deux hommes se soient endormis et elle leur dit « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. Vous nous inspirez une si grande terreur que chacun ici a perdu le courage à cause de vous tous. Nous avons appris en effet que le Seigneur avait asséché la mer des roseaux pour vous permettre de la traverser lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris aussi que vous avez tué les deux rois amorites, Sion et Og, à l'est du Jourdain, et que vous avez détruit tout ce qui leur appartenait. À ces nouvelles, le cœur nous a manqué et personne ne se sent plus le courage de vous résister. En effet, le Seigneur, votre Dieu, est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, jurez-moi par le Seigneur que vous traiterez ma famille avec bonté, semblable à celle que j'ai eue envers vous. Donnez-moi un signe que vous dites vrai. Promettez de laisser la vie à mes parents, à mes frères, à mes sœurs, à tous les membres de ma famille. Vous ne me permettrez pas que nous soyons tués. » Et les hommes lui répondirent : « Nous te le jurons sur notre vie, à condition que tu ne racontes rien de notre visite. Lorsque le Seigneur nous donnera ce pays, nous serons loyaux envers toi et nous te traiterons avec bonté. » On ne raconte pas toute l'histoire, mais lors de la prise de Jéricho, les deux espions sont partis vite en avant pour protéger Rahab et toutes les personnes qui habitaient sa maison. En écho avec ce qu'on a lu chez Moïse, qui a obtenu la faveur de Dieu ? Rahab. Rahab. Et qui est sauvé ? Toutes celles et ceux qui se rassemblent chez elle. Toutes celles et ceux qui ont eu confiance dans ce qu'elle a dit. Parce qu'elle a dû dire à sa famille, elle n'a pas fait du pipeau, « Oh, venez chez moi, on va faire un brunch. » Elle leur a dit, « Écoutez, je crois vraiment que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, va gagner et va leur donner cette ville. Écoutez, faites-moi confiance. Tous ceux qui viendront chez moi seront sauvés. On me l'a promis. » Et ces gens se sont fait confiance à Rahab et sont venus s'installer chez elle pour une nuit, peut-être pour une journée, à veiller ce moment fatidique où les murailles de Jéricho allaient s'effondrer. Alors un détail intéressant, c'est que le texte nous dit que Rahab habitait dans la muraille. C'est comme ça qu'elle a pu faire partir les espions. Et elle avait accroché un fil rouge à sa fenêtre. Donc j'imagine que toute la muraille de Jéricho s'est effondrée, sauf un petit pan de mur où il y avait un petit foulard rouge qui tenait. C'était la maison de Rahab qui a été épargnée. Toute une famille sauvée à cause d'un seul. Et qu'en est-il de nous ? Moïse avait obtenu la faveur de Dieu et il a réussi à intercéder pour sauver un peuple bien rebelle. On ne va pas rentrer dans les détails du veau d'or, mais c'est quand même... Et qu'en est-il de celui que Dieu a choisi pour nous ? Lors de son baptême, les cieux se sont ouverts et une voix est descendue sur Jésus, une voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je prends tout mon plaisir. Il fait toute ma joie. » Alors ce texte maintenant, dans Galates 3. Galates 3, 27. Pardon, 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus-Christ. Vous tous, en effet, vous avez été unis au Christ dans le baptême. On a eu la joie de célébrer un baptême ce matin. Vous avez été unis à Christ dans le baptême. Et vous vous êtes ainsi revêtus de Christ. Et revêtus de tout ce qu'il nous offre. Viens là, Jérémy, 30 secondes. Avec ta veste.
Je vais le revêtir.
Nous revêtons Christ comme nous revêtons un manteau. Alors quand Dieu me regarde, quand Dieu vous regarde, vous tous qui avez été baptisés en Christ, que voit-il ? Celui-ci, celle-ci, celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée en qui je prends tout mon plaisir. Vous tous, en effet, qui avez été unis au Christ dans le baptême, vous avez été ainsi revêtus de tout ce qu'il nous offre. Il n'importe plus que nous soyons juifs, non-juifs, esclaves ou libres, hommes ou femmes. En effet, vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. Et vous appartenez au Christ, vous êtes alors des descendants d'Abraham et vous recevez l'héritage que Dieu a promis. Tous un en Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Et je veux faire encore une autre lecture dans Colossiens 3. Et c'est chouette parce que le texte qu'a choisi Joachim par rapport à la Sainte Cène aussi fait profondément écho à ça. Parce que, à croire que l'Esprit nous inspire quand on prépare ces trucs. Colossiens 3. Vous avez été ramenés à la mort, de la mort à la vie avec le Christ. Alors cherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Christ est en Dieu. Joachim nous l'a lu dans ce texte de la prière sacerdotale. Toi et moi, Père, nous faisons un, dit Jésus. Tout ce qui est à toi est à moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Donc Jésus est dans le Père, et le Père est dans Jésus. Vous savez, quand Jésus allait préparer son départ, il dit, bon, je vais retourner auprès du Père, et vous connaissez le chemin. Et c'est Philippe, je crois, qui va faire son bon élève, qui dit, bon, d'accord, Seigneur, juste avant de partir, révèle-nous le Père, et cela nous souffrit, on se débrouille après. Tu nous montres le Père, et puis après, on y a... Et Jésus se tourne vers Philippe et dit, « Mais ça fait 3 ans que je suis là avec vous et tu ne m'as pas vu ? Ne sais-tu pas que tous ceux qui m'ont vu ont vu le Père ?» Alors je vais mettre Jésus en Dieu. Et voilà, ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Qui pourrait être contre moi si Dieu est pour moi ? Qui pourra m'arracher de là ? Les épreuves, les tribulations, les douleurs, les anges, les démons, les puissances, les hommes, qui pourra m'arracher de là ? Bon, mon exemple est mauvais parce que il n'y en a qu'un là-dedans. En fait, nous sommes des millions de millions, des myriades de myriades, des myriades de myriades. Et Christ est très grand, et Dieu encore plus. Nous sommes tous unis au Seigneur Jésus, nous sommes tous cachés en lui. Et ce ne sont pas par nos propres mérites que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les mérites d'Israël. Moïse n'a même pas cherché à en avancer un seul. Il a dit, Seigneur, tu as dit que tu m'aimais. Et c'est avec cette... Ok, le Seigneur a dit qu'il m'aimait, donc je vais essayer un truc. Et il dit à Israël, écoutez, je monte, qui sait si Dieu ne changera pas d'avis ? Il y a quelques semaines, on a fêté l'ascension. Jésus est monté, non pas en haut de la montagne, il est monté, et on l'a lu dans Colossiens, à la droite de Dieu. On l'a dit, l'ascension, c'est le jour où un humain, s'est assis sur le trône du monde. Et dans cet humain, il y avait des myriades de myriades qui étaient cachées. Et Jésus n'a pas cherché à dire, non, mais tu sais, Joachim, au fond, il n'a pas que des défauts. Tu devrais le garder. Ou Timothée. Mais bon, avec Timothée, il a quand même fait un bon investissement, je pense. Non, je blague. C'est un copain qui m'a dit ça. On est tous sauvés par grâce, mais quand même, avec moi, le Seigneur, il a fait une bonne affaire. Il n'a pas cherché à mettre en avant les qualités des uns et des autres. Il a dit, moi, tu m'as accepté et je fais ton plaisir. Et moi, je prends Joachim avec moi. Et moi, je prends Patricia avec moi. Donc si tu m'acceptes, tu les acceptes aussi. Et tout ce qu'ils ont fait de mal, c'est sur moi. Qui vous arrachera de là ? Et peut-être ça vous paraît étrange ce que je dis. Peut-être ça vous paraît étrange. Peut-être vous êtes comme le frère aîné dans la parabole du fils prodigue, vous savez ? Le frère aîné, il a passé sa vie à chercher à construire ses mérites. Alors il a les bras mais chargé de mérite. Et il attend qu'une chose, c'est que son père dise « Ah oui, quand même, oh, toi, t'es vraiment méritant. » Et le père voit ce fils prodigue qui a fait n'importe quoi de sa vie, qui arrive, et qui dit « Ah, oh, il le prend comme ça. » Il dit « Mais quoi ? » Il rentre à la maison, il a accepté sans aucun mérite. Mais moi, j'ai... Attends. Papa, je crois que t'as de la boue dans les yeux. T'as pas bien vu, là. Et il trouve que son père a tort. Son père devrait fonctionner à la mérite. Il a basé toute sa vie sur la méritocratie. Comment est-ce que... Je veux être aimé de toi, papa, pour tout ce que j'ai fait. Mais le père dit non, je veux t'aimer. Parce que je t'aime. Dépose-moi tous ces mérites-là, je ne peux pas t'embrasser. Dépose-les. Abandonne-les. Je ne peux pas t'embrasser. Et parfois, on s'accroche à ça. Mais je ne peux pas rentrer dans la poupée, alors. Parce que pour rentrer dans la poupée, il faut arrêter de mériter. Bon, soyons honnêtes. Il y a des gens qui sont rentrés dans la poupée qui continuent encore un peu à mériter des fois. Moi aussi. Vous êtes mort avec le Christ et votre vie est cachée en Dieu. Qui vous arrachera de là ? Personne. Puissiez-vous demeurer fermement ancré dans cette grâce qui nous unit tous ceux qui sont là autour de vous sont enracinés dans la même grâce. On est tous dans la même poupée. Alors Jérémie, je voulais t'offrir une poupée russe, mais une belle, vous savez, un peu abîmée et puis pas complète et tout. Donc, je te donne celle-là, mais avant que je reçoive celle que je voulais vraiment t'offrir. Que la grâce du Seigneur soit profondément ancrée en vous. Amen.